Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'armée.
Harold David, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur et directeur de la programmation du festival Éclat, le festival de la voix du pays de Dieulfi, qui tiendra sa 16e édition du 13 au 17 septembre à la Halle de Dieulfi. Jusque-là, vous avez travaillé en collaboration avec Moïse Hill, co-directeur et co-fondateur, qui cette année vous a laissé élaborer la programmation seul. Vous le saluez d'ailleurs dans l'édito du programme de cette année pour ses 15 années d'engagement. La voix chantée, bien sûr, parlée, sifflée ou ventriloquée est toujours à l'honneur dans votre festival. Cette année, nous pourrons découvrir le siffleur Fred Radix, Marie-Paul Bell, le jeudi 14 à 21h dans un récital piano-voix. Et puis en clôture, le dimanche 17 à 21h, Jacques Weber viendra compter la voix de Molière. Voilà pour les têtes d'affiche d'une édition qui promet d'être riche en émotions et en découvertes. Chansons françaises, bal, musique du monde avec Impérial Orphéon. Alligator, un concert World Electro vendredi 15 à 21h, suivi le lendemain par Nomade, la compagnie Nomade. Et puis Nadine Desper, une comédienne vivant ici à Dieulfi, mettra des mets en mots pour un petit déjeuner à déguster au salon de thé, si le cœur vous en dit, 56 rue du Bourg, le dimanche 17 à 10h. Reste encore à écouter un duo hors les murs à Poitlaval, The Band from New York, et puis beaucoup de surprises dans le programme du Festival Éclat. Alors, c'est éclatant et ça fait 16 ans que ça dure. Harold David, vous êtes aussi le directeur du festival Est-Ouest créé en 89 par Tonvink Adi. Comment fait-on pour maintenir deux festivals de cette ampleur en vie aussi longtemps et qu'est-ce qui vous anime?
Si je vous disais tous les autres festivals que vous citez pas et dont je m'occupe aussi, votre question serait encore plus pertinente, puisque je m'occupe aussi de la fête de la transhumance à Dine depuis quelques années, et également des Espiégleries, le festival de la Clairette, et je m'occupe de plusieurs salles dont je fais la programmation aussi sur le festival Off d'Avignon depuis quelques années maintenant. Donc voilà, j'ai une vie professionnelle qui est depuis de longues années structurée, organisée et je dirais au rythme voilà, du spectacle vivant qui est ma passion depuis toujours. Et ce qui m'anime, c'est ça, c'est vraiment voilà, la passion, le plaisir de, d'abord d'être spectateur de spectacle, d'aller en découvrir, d'en accueillir. J'aime la rencontre avec les artistes, avec leur univers, avec les processus de création auxquels ils sont confrontés. Et quand on est programmateur, c'est ça qui est quand même un des grands bonheurs de ce métier, c'est que des choses qu'on aime, on peut les faire partager à d'autres en les programmant. Et des artistes et des spectacles qu'on aime, on peut effectivement être le passeur, en tout cas permettre cette rencontre, cette médiation entre l'œuvre, l'artiste et les publics qui vont venir, on l'espère toujours nombreux, les découvrir et éprouver des émotions qui vont être peut-être les mêmes que soi-même, peut-être d'autres, qu'importe, c'est que cette circulation et ce rôle de passeur soit assumé. Donc voilà, c'est ça qui m'anime fondamentalement et qui me procure un vrai plaisir à la fois humain, à la fois esthétique, à la fois émotionnel. Et c'est aussi très gratifiant de faire partager ce qu'on aime à d'autres. Alors des fois, en face, tout le monde n'aime pas les mêmes choses, donc ça répond pas toujours. Mais c'est pas grave, parce que justement, une proposition artistique, elle n'est pas faite, de mon point de vue, pour être consensuelle. Et il faut que les propositions puissent, dans certains cas, diviser, apprécier différemment, en tout cas. Et puis aussi, en tant que spectateur, je sais très bien qu'il y a des choses qu'on peut, qui vont nous toucher peut-être à un moment de notre vie, et puis plus quelques années plus tard, et inversement, des choses où des artistes, on va passer à côté, et eh bien on va les redécouvrir tardivement ou bien après les avoir croisés une première fois. Bah, je dis ça parce que par exemple, Marie-Paule Bell, c'est précisément le cas. C'est une artiste que je connaissais de nom, évidemment, depuis longtemps, puisqu'elle habite le paysage de la chanson française depuis quelques décennies, on va dire. Voilà.
Et elle est pourtant très peu reconnue, très peu écoutée.
Alors, c'est vrai et pas vrai, en fait. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait reconnue professionnellement. Partout où elle se produit, il y a un public qui vient la voir. Ça va être bientôt complet, là, le concert à Dieulfi. On l'a déjà accueilli il y a 5 ans. Marie-Paule Bell, ça avait été archi plein. Donc, il y a un public fidèle. Là où, effectivement, elle est moins visible que d'autres artistes ou qu'elle a pu l'être à certaines époques de sa carrière, c'est sur les médias. Et effectivement, on l'entend peu sur les radios, on la voit peu à la télévision, mais c'est d'abord une artiste de scène. La magie avec elle s'opère vraiment dans la relation qu'elle noue avec le public, qu'elle sait faire d'une manière unique, délicieuse, enfin qui vraiment moi me touche profondément, et je sais que c'est partagé. Hein, c'est pour ça que
elle me fait penser à Juliette un peu.
Oui, bah c'est une des mamans de Juliette,
c'est
une lignée d'artistes effectivement qui piano sont voix. Inscrits dans un piano-voix, dans un attachement au texte et à la langue et à l'écriture. Juliette, elle est auteur de ces textes, hein, donc elle a cette capacité de mettre en mots véritablement sa sensibilité et en musique. Marie-Paule Bell, elle compose, mais elle écrit peu ses textes. Elle a souvent fait appel justement à des écrivains et des auteurs qui lui ont écrit des chansons, dont Françoise Malégeorris, par exemple, dont elle va d'ailleurs sortir un album prochainement, où elle reprend tous les textes que Françoise Malégeorris avait écrits pour elle. Voilà, donc effectivement, elles sont dans une sorte de filiation, Juliette par rapport à Marie-Paule Bell, et puis aussi dans cette présence vocale, cette présence scénique. Et très honnêtement, Marie-Paule Bell, pendant jusqu'à ce que je la redécouvre sur scène, pour moi, c'était une artiste d'une époque. Je la préfère mille fois aussi dans cette façon qu'elle a maintenant de porter ses chansons en piano-voix, ce qu'elle n'a pas toujours fait, où il y avait, si vous avez écouté les premières versions de La Parisienne ou de Wolfgang et moi, ces grands succès. Il y a des arrangements qui peuvent sembler peut-être un peu datés aujourd'hui. Et la magie du piano-voix, c'est que c'est éternel. Quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est intemporel. Et du coup, je trouve que de cette manière-là, elle est tout à fait magnifique. Voilà. Et c'est précisément une artiste dont je suis passé très très longtemps à côté de la puissance et de la force émotionnelle. Donc voilà.
C'est rassurant de voir qu'il y a quand même encore des artistes interprètes qui sont aussi talentueux, talentueuses. En France, on a vraiment cette chance-là.
On a vraiment cette chance-là, qui s'inscrit aussi dans une tradition de la chanson, qui fait que c'est vraiment un genre à part dont le spectre s'est élargi au fur et à mesure des évolutions musicales, des styles. Mais on peut avoir de la chanson à caractère électropop, ou de la chanson rock, ou de la chanson française de facture classique, comme c'est le cas avec Marie-Paule Bell, ce qui n'est pas du tout négatif. Et quand je dis ça, c'est juste que dans la forme, on est... Mais le spectre est vraiment très très large, et ça, c'est l'histoire du musical et de la chanson française au sens large, qui permet cette cette diversité-là, justement, de propositions artistiques et de, dans les univers et les couleurs musicales qui peuvent être mises au service de la chanson, justement.
Non, bravo, Harold David, d'avoir programmé Marie-Paul Bell. C'est vrai, ça fait plaisir de revisiter un peu une partie de l'histoire musicale française qui a été un peu mal connue ou mise de côté ou un peu dénigrée parce qu'on ne sait pas pourquoi, en fait, exactement.
Oui, mais les effets de mode.
Et puis les femmes sont rarement aussi à l'honneur, je trouve.
Oui, oui, et puis bon...
On a tout de suite beaucoup plus parlé quand même d'interprètes comme Serge Gainsbourg ou comme, je sais pas, on a mis beaucoup d'hommes à l'honneur, mais rarement des femmes, et femmes qui chantent seules, quoi. Donc du coup, quelles sont, à part les têtes d'affiche, puisqu'on pourra reparler de Jacques Weber après, mais quelles sont vos recommandations pour cette programmation cette année?
Oh, les recommandations, c'est difficile parce que j'ai envie évidemment de défendre tous les spectacles que j'ai programmés. Donc il faut prendre le pass complet et passer son temps à la halle à découvrir les spectacles programmés. Non, après, je pense que c'est... Bon, c'est le Festival Éclat, c'est la 16e édition. Il a vraiment été pensé comme un temps de découverte. Donc on a une programmation qui est volontairement très éclectique avec des choses qui... et des artistes, en tout cas des propositions artistiques, qui se retrouvent rarement dans un même programme. Voilà, c'est un des choix.
Il y en a pour tous les âges.
Voilà, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Et c'est pas par manque de ligne artistique ou quoi. Enfin, je fais par ailleurs des programmes beaucoup plus. Des programmations beaucoup plus resserrées en termes de thématiques.
Ciblées
sur d'autres festivals. Mais l'ambition vraiment pour ce festival-là, c'était d'abord que ce soit un festival qui soit positionné en arrière-saison, qui puisse profiter. C'est évidemment un public touristique derrière saison et constituer un temps fort de la saison touristique locale, mais sur sa dernière partie, on va dire. Mais aussi et d'abord que ce soit un festival pour le territoire et pour ceux qui vivent là l'année à un moment donné où les saisons culturelles n'ont pas encore commencé, que ce soit dans l'agglomération de Montélimar ou Valence, puisqu'en général ça commence plutôt en octobre, et ce soit un festival qui soit aussi un temps de vie et de partage avec les habitants du pays de Diolfi, et c'est bien comme ça que le festival a été compris, puisque et ça c'est une des choses dont je pense qu'on peut l'affirmer, voilà, comme des réussites, c'est qu'il y a une fidélisation vraiment d'un public local qui s'est faite, alors sur le bassin de Montélimar au sens large, qui comprend évidemment le pays de Diolfi, Bordeaux, Cray, et le bassin valentinois, et ça constitue à peu près quand même 75% de notre public, et les 25% restants ce sont des spectateurs qui ont découvert à un moment le festival en cas d'une villégiature ou autre et qui vont faire le choix vraiment de venir passer une semaine de vacances sur le territoire et profiter effectivement du festival. Et donc là, ils peuvent venir évidemment des régions limitrophes, je pense à PACA, Auvergne, enfin voilà, et puis
C'est quoi la fréquentation?
La fréquentation, c'est en tout, l'année dernière, on devait être sur 3800 spectateurs à peu près sur 5 jours, avec des jauges variables. Alors, auparavant, jusqu'à l'année dernière, on avait des concerts certes à l'AL, l'espace culturel de Diolfi, donc qui peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Et sinon, on faisait des concerts à l'église Saint-Pierre, à l'église Saint-Roch, parfois au temple, ou hors les murs, comme ça va être le cas cette année, puisqu'on va avoir une proposition au centre d'art et d'animation de Poët-Laval, le centre Yvon Morin, qui va accueillir le duo Gamal et Marie-Rose Morcel autour de musique du monde, plutôt du Proche-Orient. Mais là, cette année, bon, pour différentes raisons logistiques et techniques, il n'y a pas de concerts qui sont proposés dans les églises, par exemple, de Diolfi. Tout est concentré dans la halle. Du coup, potentiellement, on peut accueillir plus de monde que les années précédentes, puisque souvent, sur les concerts qui étaient bien remplis, en fait, on plafonnait, quoi, puisqu'on n'avait pas la place pour accueillir plus de personnes que celles qui venaient. Donc, voilà, mais c'est à peu près 3000. entre 3 500 et 4 000 spectateurs selon les éditions, sur 5 jours, avec une moyenne de 2 à 3 propositions par jour, du mercredi 13 donc jusqu'au 17 septembre. Et je reviens sur la notion d'éclectisme, c'est-à-dire que vous allez trouver effectivement, comme on disait, Marie-Paul Bell. En ouverture, on va accueillir Le Siffleur, donc, qui est un spectacle musical burlesque et décalé autour de la musique sifflée avec Fred Hardix et son quatuor, où voilà, c'est une sorte de fausse conférence sur l'histoire de la musique sifflée, comme si c'était un genre en soi qui avait ses lettres de noblesse au même titre que la musique classique. Voilà, donc Fred Hardix joue de tous les codes de représentation des concerts classiques pour les détourner de manière très très drôle et ludique et joyeuse. Et puis on va avoir aussi des propositions autour des musiques du monde avec le groupe Alligator, qui propose une chanson world electro. Voilà, donc c'est là où la chanson française, on voit elle a un spectre effectivement qui peut être très grand, puisqu'il chante à la fois en arabe, en anglais, en français, sur des thèmes qui ont à voir avec l'exil, la différence, l'identité, la peur de l'autre, enfin voilà, sur des thèmes, on va dire, de société ou à caractère engagé, mais sur un mode très festif, très, très joyeux. C'est vraiment un concert où on danse et où voilà,
c'est la soirée pour faire la fête, vendredi 15.
Pour faire la fête, voilà, avec Alligator, puis avec Abdel Sefsaf, le leader du groupe, qui a vraiment une présence scénique absolument étonnante. Et met le feu, c'est le cas de le dire, partout où il passe.
Elle se couche lentement et le soleil se lève enfin. Les ombres du jour cèdent la place aux anges de la nuit. Elle n'entend plus les cris de sa mère endormie, elle ne sent plus les coups de son père assoupi.
Accueillir Mouron, qui est une artiste qu'on a accueillie plusieurs fois pendant le festival, qui, alors elle aussi, ça pourrait être une fille de Marie-Paul Bell, parce qu'elles ne sont pas de la même génération tout à fait, mais elles sont quand même assez proches, et qui propose avec son pianiste Terry Truck un répertoire qui fait honneur au petit chef-d'œuvre des grandes chansons. C'est le titre du spectacle,
ce sont des reprises alors.
Ce sont des reprises, mais on va aussi bien du côté d'Alain Leprest que d'Aznavour, en passant par Renaud ou Beko, et vraiment avec des arrangements qu'a réécrit Terry, qui est un merveilleux arrangeur, pour la voix de Mouron, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une voix vibrante, frémissante, puissante. C'est vraiment un beau moment de chanson française à partager avec ces deux beaux artistes. Et ensuite, ce même jour, puisque ça c'est le samedi 16, on va avoir le groupe Nomade, qui lui fait des chansons du monde. Ce sont des artistes qui sont de la région, puisqu'il y en a une partie qui sont sur Chabeuil, qui sont majoritairement drômois, et qui vont proposer donc une chanson contemporaine à caractère du monde, une instrumentation assez riche et très pays de l'Est, enfin très balkan dans le côté d'esprit musical. Et à chaque fois, bien sûr, puisque là je parle des styles musicaux, mais ce qui nous intéresse, évidemment, puisqu'on parle du Festival de la Voix, c'est que chaque proposition soit portée par une signature vocale qui, moi, me semble intéressante et identifiable et forte, avec une identité forte. Et donc, c'est à chaque fois des voix, même à l'intérieur de groupes comme Nomade, c'est porté par la chanteuse Elodie Lordet, qui a une voix très particulière, mais très, très émouvante, très, très, très cristalline, très... Enfin, plein de poésie qui va très bien avec les chansons du groupe. Voilà, dans chaque groupe, c'est pareil, Abdel Safsaf, dont je parlais tout à l'heure, c'est un artiste qui a une voix chantée très reconnaissable. Enfin, tout de suite, si on l'a déjà entendu, on sait que c'est lui, quoi. Voilà, qui a une voix un peu détimbrée, mais en même temps avec des vibrations très graves dans la voix, enfin voilà, qui le caractérise en tout cas vraiment de manière forte.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de programmation, enfin d'artistes qui locaux en fait. Il y a quand même pas mal d'artistes qui sont dans le coin.
Oui, bah ça a toujours été le cas en fait dans le festival d'être ici et ailleurs, c'est-à-dire de.
Merci, c'est nous ça, ouais. L'association ici et ailleurs voilà. Qui porte Radio Là.
Je savais
le
pas, mais.
Le petit clin d'œil, merci.
Oui, voilà, c'est effectivement un des enjeux aussi de la programmation, c'est que parce que j'ai été producteur et tourneur d'artistes, je le fais plus, mais j'ai fait ça pendant longtemps. Et il y a rien, enfin, ce fameux adage qui dit que nul n'est prophète en son pays, c'est dans le pays de la chanson. En tout cas, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que très souvent, les artistes ont énormément de mal à tourner dans leur propre région, là où ils sont basés. Et du coup, je trouve que c'est important qu'un festival de territoire comme le nôtre, il puisse effectivement permettre à des artistes du territoire d'être exposés de la même façon que des artistes venus d'ailleurs. Donc il y a toujours cet équilibre entre des artistes, on va dire... régionaux au sens large, hein, voilà, parce que là, j'ai pas fait le compte, mais je pense que les trois quarts des artistes sont effectivement d'Auvergne-Rhône-Alpes, au sens régional du terme. Et puis les autres, effectivement, peuvent être d'ailleurs, voire de l'étranger pour certains. Et après, dans les styles, c'est toujours important aussi pour moi, parce que c'est ce que j'aime quand je vais au spectacle, c'est pouvoir être aussi bien dans la légèreté que la gravité, que la profondeur. C'est aussi d'avoir des propositions, certes, qui sont dans l'émotion, enfin, qu'elles soient toutes dans l'émotion, mais qui puissent aussi avoir des choses où les gens aient la possibilité de rire. Et d'être dans
se divertir
dans
aussi.
Le divertissement, voilà, que l'expérience du spectacle soit peut être une expérience évidemment très presque ontologique pour certains, enfin voilà, on a tous au moins un spectacle qui d'une manière ou d'une autre a influencé notre vie, je crois, enfin pour les gens qui vont au spectacle en tout cas, dans le cas du festival, c'est important qu'il y ait des artistes qui portent ça et puis qu'il y ait aussi des propositions qui ne négligent en rien la qualité et qui soient dans le pur divertissement. C'est le cas du Siffleur dont je parlais tout à l'heure, où on est dans un spectacle de divertissement, même s'il y a quelques petits messages quand même engagés, qui sont bien, bien envoyés à deux, trois moments. Et puis, dans ce même type de registre, mais pas musical, mais sur le côté burlesque musical, on accueille donc The Band from New York, qui est une formation d'un duo toulousain, tout à fait étonnant et délirant, qui vraiment le public se plie en deux du début à la fin du spectacle, où à partir d'un motif totalement idiot de départ qui est un super chanteur américain qui débarque pour une tournée en France, mais son band donc a loupé l'avion et donc il est obligé d'embaucher un
band sur place.
Un band sur place qui se résume à un pianiste tout seul et sa perruque. C'est très important la perruque dans l'histoire. Et voilà, et ça donne
un moment pour rire.
Un moment pour rire et un délire vraiment jusqu'au bout, on se demande quel va être le gag qui va dépasser le précédent, et tout ça avec en s'appuyant sur des chansons connues pour la plupart du grand public de la variété française et internationale. Il y a aussi des trucs en anglais parce que donc il est américain, donc il ne parle qu'en anglais.
D'accord.
Voilà, donc
c'est dimanche
17, avant effectivement d'accueillir notre deuxième parrain, hein, puisque Marie-Paul Bell est une de nos marraines et Jacques Weber a accepté d'être parrain aussi de cette 16e édition. Donc Jacques Weber, comédien de théâtre, de cinéma, écrivain, homme de lettres, comédien engagé aussi, parce qu'il a toujours eu un engagement politique
affirmé,
voilà, on peut dire ça comme ça, et qui là, au travers du choix du texte qu'il va proposer à entendre, enfin faire entendre aux spectateurs, ça rejoint un peu tout ça, puisque il s'est emparé du texte de Mikhaïl Bulgakov, qui est l'auteur du Maître et la Marguerite, que certains auditeurs connaissent peut-être, qui s'appelle La vie de Monsieur Molière, qui est un texte que Bulgakov a écrit pendant la période stalinienne, à un moment où il était interdit de publier et où, pour arriver à respirer dans ce régime totalitaire qui lui empêchait d'exister en tant qu'artiste, il s'est caché derrière la figure de Molière pour parler de la condition de l'artiste opprimé, du rapport au pouvoir et en même temps de Molière, voilà, effectivement mais donc c'est un livre comme ça qui a été adapté pour le théâtre où le héros avance effectivement masqué derrière cette figure mondialement connue de Molière. Et pour Jacques Weber, qui a été un grand interprète des pièces de Molière, c'est aussi l'occasion de parler du métier d'acteur et de se glisser dans plusieurs peaux, à la fois celle du narrateur, avec la langue de Bulgakov, mais aussi de pouvoir jouer des rôles qu'il n'a jamais pu jouer, notamment des rôles de femmes. Voilà. Il émaille le texte d'extrait du Misanthrope, où il fait Célimène, par exemple, ou Phèdre, voilà, des textes qu'il a souvent joué, mais évidemment dans les rôles d'hommes. Donc il se fait plaisir aussi, et j'espère que ce sera le cas aussi
donc
pour le public.
Donc c'est un spectacle qu'il a créé lui-même.
Tout à fait, oui.
C'est un monologue, ou une lecture.
C'est un seul en scène, mais c'est pas une lecture. Il joue vraiment le texte, enfin il dit le texte et il joue ses scènes, voilà, passant d'un univers à l'autre pour faire vivre sous nos yeux la vraie histoire effectivement de Jean-Baptiste Poquelin alias Molière, mais vue par Bulgakov, qui à l'intérieur de ce motif de Molière glisse pas mal de messages, voilà, qui dépassent largement le côté biographique de la vie de Molière. Voilà, donc vraiment c'est un spectacle de théâtre sur le théâtre
avec un grand homme de théâtre,
avec un grand homme de théâtre et un grand écrivain, voilà, à la clé. Donc voilà, ça va clôturer effectivement cette émission le dimanche 17. En interview avec notre partenaire montilien au niveau de la radio RDN, on a le droit de citer d'autres radios.
Mais oui, Radio Soleil, bien sûr.
Radio Soleil FM, voilà.
Nos partenaires aussi.
Voilà. Qui viennent faire des interviews quotidiennes des artistes qui sont ouverts au public. Et puis ensuite, il y a des temps de rencontre, par exemple, avec Naline Desper, que vous avez cité, là, avec son petit déjeuner lecture dans le salon de thé, si le cœur vous en dit, là, qui est dans la rue du Bourg. Il y a normalement donc des rencontres qui sont prévues aussi à la librairie Sceaux et Gambade. Le dimanche 17, ce rendez-vous aussi donc au Centre Yvon Morin à Poitlaval. Et bien sûr, il y a tous les soirs après les spectacles, le cabaret qui est très attendu et vraiment qu'à un moment très suivi par les spectateurs du festival, avec Pascal Marie, que les fidèles du festival connaissent bien parce qu'il est là depuis plusieurs années dans la programmation, mais aussi pour animer maintenant le cabaret. Et donc il y a un temps d'après-spectacle de chansons qui le propose lui, et aussi c'est un moment où le public peut chanter, voilà, il peut même répéter dans la journée avec Pascal et puis présenter des chansons le soir, ou sinon ça s'improvise de manière très simple avec voilà, ça dépend des artistes, ça dépend des cas de figure, mais avec très souvent voilà des buffs improvisés qui ont lieu dans cet espace cabaret qui prolonge la soirée parfois jusque fort tard. Différentes casquettes. Il m'arrive de faire le comédien et donc ça c'est un spectacle que j'ai conçu avec sous forme de lecture spectacle musical avec une artiste qui s'appelle Carole Jacques qui vit dans le Divois et qui reprend un certain nombre de textes poétiques, des chansons et des contes de Prévert pour emmener le public voilà dans une un voyage comme ça un peu à la redécouverte de Prévert qu'on parfois on a tendance à enfermer dans l'univers scolaire justement, ce qui est paradoxal parce que c'est un mauvais élève, c'est surtout un poète libertaire et tous ces textes, il y a énormément de textes qui parlent de sa rupture définitive avec le monde des professeurs, avec le monde de cette transmission et qui est aussi un poète pacifiste, un poète surréaliste, il y a énormément de presque néo-romantiques sur certains. Voilà, faut pas oublier que c'était quand même lui le dialoguiste des films de Carnet, etc. Enfin, il y a cette dimension-là aussi qui est très présente dans son œuvre. Donc, on a toutes les écoles de Diolfi qui viennent, que ce soit l'école publique ou l'école privée, et puis des écoles des villages du territoire qui vont venir à la halle assister à cette proposition qui se double d'une visite d'une exposition qu'on va mettre en place qui s'appelle Les Collages de Jacques Prévert, puisque parmi les différents modes d'expression qu'il a utilisé, outre l'écriture, le cinéma, la musique, le théâtre, et j'en passe, c'était que Prévert faisait des collages, en fait, avec des assemblages d'images, dans des montages assez surréalistes. Donc on va avoir une exposition qui va être présentée à la halle, dans le hall d'accueil. L'idée, c'est que les enfants vont venir voir le spectacle et avoir une visite guidée sur un mode un peu ludique de l'exposition de ces fameux collages. Donc c'est un peu tout ça le festival des classes. C'est toujours été l'idée d'avoir des programmations et aussi plein de moments de vie partagés avec le public et quand les artistes jouent le jeu, très souvent c'est le cas aussi avec les artistes, voilà, et de faire qu'il y ait une ambiance qui soit fondée sur la proximité, la bienveillance, le partage, le fait d'être du vivre ensemble par la force des choses. Quand on partage des émotions, on est relié à l'autre, donc par ricochet ça vient nourrir du lien social, du lien générationnel et c'est des j'aime pas le mot valeur, je vais pas dire ça, je vais pas parler de valeur, mais en tout cas ce sont des choses.
C'est un petit peu ce qui vous motive depuis quelques années, apparemment.
Oui, c'est pour répondre à la question initiale que vous m'avez posée, c'est ça. Donne du sens en tout cas à ce travail qui mobilise aussi, je tiens à les saluer, près d'une vingtaine de bénévoles et certains depuis plus de 15 ans.
Amis Dromois, vous êtes chanceux vraiment de pouvoir venir au festival Éclat, c'est l'Éclat du 13 au 17 septembre. Donc pour avoir des places, comment on fait?
Alors par téléphone, il faut appeler à l'office de tourisme du pays de Diolfi, donc c'est le 04 75 46 42 49, et donc là vous pouvez réserver par téléphone. Sinon, bien évidemment, on a une billetterie en ligne sur notre site internet où toute la programmation est détaillée. Et sinon, on a un certain nombre de partenaires revendeurs.
Oui, tous les grands revendeurs classiques pour avoir des billets.
La programmation. Voilà. Et puis sinon, aussi, avec le risque que parfois ça puisse être complet et qu'on ne puisse pas accueillir le public, mais évidemment, directement sur place, un peu avant le début de l'horaire des concerts.
Eh bien, merci beaucoup, Harold David.
Merci à vous.
Effectivement, je n'ai pas eu beaucoup de questions à vous poser.